France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Cette semaine, nous allons collecter de bonnes nouvelles du côté du Gard. Ça commence par un collectif culturel bien implanté à Bagnols-sur-Cèze, sous la forme d'une coopérative baptisée MOBA, M-O-B-A. Cet exemple d'activité qui a été bien touché par la crise sanitaire a trouvé une aide complémentaire pour ne pas perdre ses acquis, on en parlera en détail. Et puis en Haute-Garonne, nous donnerons la parole à un délégué bénévole de la Fondation du Patrimoine à l'occasion d'une dotation impact accordée à un gros projet d'hébergement géré par la communauté Emmaüs de Toulouse.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Arnold Métro, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes directeur artistique de la MOBA, Arnold, une coopérative culturelle dédiée aux musiques actuelles, je cite, créée et implantée à Bagnols-sur-Cèze depuis 2017. Et vous êtes parti de la constatation qu'il y avait de moins en moins de propositions musicales du côté de chez vous.
Tout à fait. Bah, Bagnols-sur-Cèze, c'est une ville qui a été connue pour ses nombreux festivals, hein, ouais. Entre autres le gros festival de blues et des gros festivals de reggae. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment peu de choses à l'année, donc on avait envie d'essayer de pouvoir proposer un petit peu des choses de manière régulière sur l'année, et d'où aussi l'idée de cette coopérative. On venait tous beaucoup du milieu associatif, et là on s'est dit que c'était peut-être bien d'essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sérieux, entre guillemets, au niveau de la structure, pour pouvoir voir un peu plus gros au niveau du projet. Et donc voilà, ça va faire 5 ans qu'on a ouvert cette belle salle.
Alors c'est pas une formule de politesse, parce que le lieu est devenu incontournable, mais ce qui est quand même très original, c'est que vous, Arnold et Emmanuel, vous vous lancez dans le programme et dans le projet de créer cette salle, avec maintenant d'autres services, mais sur vos fonds propres, vous n'avez aucune subvention.
Tout à fait. Et donc c'est pas donc Emmanuel et moi, on est les deux gérants de la coopérative. Mais au départ, on était 22 coopérateurs, donc on a tous mis au minimum 1 000 euros de notre argent personnel, et on a tous passé un an à faire 80% des travaux nous-mêmes. Mais effectivement, c'était une vraie réflexion à avoir, de se dire, est-ce qu'on monte un projet associatif ou pendant des années on va attendre peut-être que les politiques se décident, ou est-ce qu'on lance quelque chose de notre côté. On avait tous un peu l'expérience de l'organisation d'événements. On avait beaucoup de complémentarité entre nous, et donc c'est vrai qu'on a eu ce projet un peu fou, parce que voilà, encore aujourd'hui les structures culturelles qui ne sont pas en mode associatif sont très peu nombreuses sur le territoire.
Ouais. Et vous tenez comment, grâce à quoi aujourd'hui ?
Alors justement aujourd'hui on a cherché pas mal à diversifier nos activités, donc on fait aussi pas mal d'accompagnement d'artistes, de l'action culturelle et des autres structures, parce que le Covid a beaucoup changé notre façon de fonctionner. Hein. En fait au début on arrivait à tenir par les concerts, et surtout on va pas se le cacher, parce que du coup on a un bar dans cette salle, hein, donc tant qu'on avait de la limonade avant nos clients, on arrivait à trouver un certain modèle économique, et le Covid nous a vraiment vachement remis en question là-dessus. On a été obligé de contracter un PGE, un prêt garanti par l'État. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte justement qu'il était important de diversifier nos activités pour pas tout dépendre de l'activité de diffusion de spectacles et du bar.
L'espace est grand, et plus de 2000 mètres carrés, avec une salle de spectacle de 450 places, une terrasse, un bar, comme vous le disiez, des bureaux, une fabrique culturelle avec un studio numérique, et puis des espaces de travail et de création. Et vous l'avez appelé MOBA. Alors moi, je cherchais maison d'organisation du bazar artistique. Je m'arrachais les cheveux de la tête pour trouver la signification. Et en fait, c'est une ancienne entreprise de cuisine, Mobalpa.
Tout à fait, tout à fait. Vous l'avez trouvé. Bah, effectivement, on a eu une grosse réflexion à trouver un nom court qui fonctionne bien. Et pendant la période des travaux, on disait tout le temps, on va à la MOBA, on va au MOBA. Et finalement, on trouvait que ça sonnait pas mal. Et donc voilà, c'est resté là-dessus.
Alors, vous avez une programmation nationale, internationale, mais aussi évidemment locale. Et des musiciens locaux se sont greffés sur la coopérative.
Tout à fait, des musiciens locaux professionnels et amateurs font partie des coopérateurs et se sont greffés sur la coopérative. Et on s'est rendu compte de quelque chose d'assez fou, hein, c'est que Bagnols-sur-Cèze, avec ses un peu plus de 15 000 habitants aujourd'hui, compte presque une centaine de musiciens intermittents professionnels qui jouent jamais chez eux, en fait, vu qu'il n'y avait pas de lieu professionnel pour les accueillir. Ils vont jouer en Bretagne, à Paris, dans le nord de la France. Et donc ils sont vraiment tous venus un peu d'eux-mêmes en disant, mais ça fait des années qu'on rêvait d'un projet comme ça, comment on peut aider. Et c'est vraiment la force de notre coopérative impératif, c'est qu'on voilà, on a une équipe humaine qui est assez incroyable et qui permet d'être très diversifié dans ce qu'on est capable de faire nous-mêmes sans avoir besoin d'appeler des structures extérieures.
Alors, quel est le rôle des musiciens coopérateurs de MOBA?
Alors, quel est leur rôle? Déjà, ils travaillent un petit peu avec moi sur la direction, enfin sur la ligne artistique de notre programmation. Et après, ce qui est assez sympa dans notre fonctionnement, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'échelon entre les personnes. Donc, par exemple, on a un musicien, Tonton Alex, Alexandre Ostein de son vrai nom, qui est à la fois musicien professionnel, mais qui, dans la coopérative, est aussi notre graphiste, s'occupe de la partie vidéo. Vu que c'est celui qui a la touche la plus fine, qui s'occupe de faire beaucoup de peinture chez nous, mais même les façades extérieures. Donc, voilà, entre guillemets, les musiciens chez nous profitent de l'espace en tant que musiciens, apportent leur fibre artistique, mais ça reste surtout aussi des humains comme tout le monde qui apportent, qui peuvent apporter au projet.
Et je regarde la fiche des concerts pour la fin du mois, début novembre. Vous avez des soirées thématiques ?
Ben, on essaye vraiment d'avoir une programmation dite de musique actuelle, donc de toucher un petit peu tous les styles de musique. Et on a vraiment une vraie réflexion. Bagnols-sur-Sète, c'est une ville où il y a peu d'étudiants, donc notre public est quand même assez vieillissant, entre guillemets. Donc on essaie vraiment de toucher aussi les jeunes de plus en plus. Sur la fin d'année, on a plusieurs esthétiques entre rap et hip-hop, par exemple, qui touchent en fait des publics très différents. Hein. Et le milieu rap et hip-hop maintenant est très différencié. C'est un peu comme si on mélangeait la pop et le rock à l'époque. Voilà, il y a beaucoup de nuances dans ces musiques urbaines.
La trade union moba.com pour l'adresse. Merci Arnold.
Merci à vous, merci à tous les auditeurs et au plaisir.
France Inter, carnet de campagne.
Marie, fidèle auditrice des carnets de campagne, nous conseille de parler du travail très éco-responsable de Frédéric Fontvieille, qui est artisan confiturier, bigre. Alors je sais qu'on a passé l'heure du petit déjeuner, je me suis penché quand même sur cette fabrique de confiture basée à Congény sous le nom de la cuillère gourmande. Il faut être curieux dans la vie, donc je vais aller détailler les propositions de ce chef confiturier. D'abord, on ne peut qu'être impressionné par la variété des produits dont certaines recettes tiennent de la haute gastronomie. Jugez-en par vous-même en catégorie création enivrante. Il les appelle comme ça. Frédéric propose une recette de coing et poire aux épices et grand marnier ou une pomme au rhum et noix de coco. En création dite du verger, on peut goûter à une poire à la vanille de Bourbon ou à une reine Claude au miel des Garrigues. Et puis en version création pâtissière, on découvre une confiture d'orange au chocolat noir. Aujourd'hui, notre artisan a rejoint le Collège culinaire de France. Il participe à la création aussi de la Fédération des artisans confituriers de France. Pour la partie écologique, cet artisan s'approvisionne en électricité renouvelable, circule en voiture électrique et n'utilise que des emballages recyclables. Il composte par ailleurs les déchets de fruits qui proviennent des producteurs locaux. Et pour être complet, les confitures sont préparées dans des chaudrons de cuivre et remuées, je cite, à la cuillère en bois de hêtre. Faut-il encore dire que les produits sont sans conservateurs et sans colorants? Je sais pas si c'est bien la peine. Marie conclut son courrier en nous apprenant que Frédéric envisage de s'installer dans une ancienne cave coopérative avec d'autres producteurs locaux. Les productions de la cuillère gourmande sont en vente en France, mais aussi chez des voisins espagnols, l'italien, allemand, belge. Il est incroyable, tout en restant une échelle artisanale. Le site, c'est la cuillère gourmande, miammiam.fr. Non, j'ai ajouté miammiam, c'est pas dans l'adresse. Charles Maréchal, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en Haute-Garonne. Vous êtes délégué Haute-Garonne Nord de la Fondation du Patrimoine.
Alors délégué Haute-Garonne tout court maintenant depuis le 1er septembre. Je couvre tout le département parce que mon délégué m'a demandé de coacher mes deux collègues du Sud.
Les délégués départementaux de la Fondation du Patrimoine sont tous bénévoles ?
Ah oui. Tout à fait. Il faut savoir que à la Fondation du Patrimoine, en gros, national, vous avez 77 salariés, ce qui est pas beaucoup, hein. Oui. Nous, on en a que deux sur les 77. Et il y a 692 bénévoles. Ce sont tous des délégués adjoints et des délégués régionaux.
Et tous des passionnés du patrimoine de leur département, évidemment.
Eh ben, bien sûr, parce que pour faire ça, on fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça parce qu'on aime ça. Et parce qu'on aime non seulement le patrimoine, mais on aime aussi les contacts que l'on a avec tant les collectivités, puisqu'on aide aussi les collectivités, que les propriétaires privés et les associations.
Alors récemment, on a découvert d'abord les résultats d'une étude sur l'impact des collectes et du mécénat d'entreprise à l'échelle économique, et on va en donner des exemples, mais surtout aussi les lauréats de la seconde édition de la dotation impact pourvue d'1 300 000 euros. Qu'est-ce que cette dotation impact, Charles?
Alors, cette dotation impact, c'est nouveau, c'est la deuxième édition, repose donc sur une enveloppe financière. L'année dernière, c'était 1 million, là, vous me dites que c'est 1 300 000. Le jury doit sélectionner 5 projets, donc dans les 5 projets, un projet coup de cœur, et il y a des critères d'impact sur lesquels on repose la sélection des projets, à savoir un critère économique, un critère social, un critère environnemental et un critère sécurité.
Alors vous, c'est le critère impact social qui nous importe, avec un lauréat qui est la communauté Emmaüs de Toulouse.
C'est exact. Et alors il faut savoir quand même que le dossier de Emmaüs, même si c'est le critère social, effectivement, sur la base duquel il a été retenu, mais c'est quand même un des rares dossiers qui remplit tous les critères. Et il en remplit non pas 4, mais 5.
Oui.
Économique, social, environnemental, sécurité, mais même également un critère culture et patrimoine.
Et grâce à cette dotation, Emmaüs Toulouse va faire l'acquisition d'un site qui comprend un château?
Non, elle ne va pas faire l'acquisition. Elle a déjà fait l'acquisition en 2018 d'un château qui est un château du XVIIe siècle, qui était fermé depuis des années, et ce château se trouve dans une propriété qui fait 4,2 hectares, qui est dotée de 2 espaces boisés qui sont classés. C'est le seul d'ailleurs poumon vert, on peut appeler ça comme ça, dans le quartier de Sesquières où se trouve ce château et cet ancien domaine.
Alors, c'est quand même amusant l'histoire. Ce lieu privilégié qui devient aujourd'hui partageable socialement avec des personnes qui sont en quête d'emploi, qui ont besoin d'un hébergement.
Oui.
C'est ça qui est fantastique comme histoire.
Oui, parce que à l'époque également, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un des lieux de rendez-vous de la haute société toulousaine.
Le programme rénovation du site qui va permettre d'accueillir plus de 35 personnes en grande difficulté.
Exactement. Et il va y avoir une vingtaine de compagnons et de compagnes qui vont pouvoir être logés à l'intérieur du château dans des logements qui sont dignes et décents. Et à côté de ça, dans le parc, si vous voulez, Emmaüs va également construire, c'est en cours d'ailleurs de construction, un édifice qui va servir au rez-de-chaussée de magasins de vente des produits d'Emmaüs, et à l'étage, ce seront également des chambres pour les compagnons et les compagnes.
Beau projet avec cette dotation de 300 000 euros. Alors, il y a une étude du cabinet Pluricité qui donne des informations importantes, à savoir 1 euro de don à la Fondation du patrimoine génère 21 euros de retombées économiques.
Oui, pourquoi? Parce que effectivement, ça permet de maintenir et de développer des entreprises qui ont un savoir-faire traditionnel en matière de restauration de patrimoine. Ça permet donc de maintenir et de développer des emplois qui sont vraiment des emplois spécialisés et à fort savoir-faire.
Les chiffres exacts, donc concrètement, cela représente 15 834 emplois.
Tout à fait.
C'est pas rien. Vous allez avoir des informations sur le site de la Fondation du Patrimoine, fondation-patrimoine.org. Et puis, vous pouvez avoir aussi des informations sur la communauté Emmaüs de Toulouse. C'est emmaüs31.org. Merci beaucoup, Charles.
Merci beaucoup. Et à bientôt peut-être. Au revoir.
Paul Landowski, le créateur des cafés Contact de l'Emploi. Il s'agit de rencontrer un employeur directement autour d'un café, sans jugement préalable et sans lecture préalable de CV. Vous propose le 242e café Contact de l'Emploi à Villepinte. C'est jeudi à 9h très précisément, à la Sandwicherie, le 93 avenue de la République à Villepinte. C'est organisé par le département dans le cadre d'un programme Bâtissons nos emplois. Il y a beaucoup d'emplois proposés autour du BTP pour cette matinée, donc jeudi 28 octobre, le Café Contact de l'Emploi à Villepinte.